RFI, il est 16h à Paris, 14h en temps universel. C'est l'heure d'un nouveau journal.
Alban Le Prince.
Avec à la une le chef du Hamas tué à Gaza, c'est le premier ministre israélien qui l'annonce à l'instant. Nous reviendrons également sur cette distribution d'aide à Gaza qui a viré au drame. Hier, elle était organisée par la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël et vivement critiquée par les Nations Unies et les ONG. Dans ce journal également, l'Allemagne au chevet de l'Ukraine. Le chancelier allemand Friedrich Merz a reçu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, tout à l'heure à Berlin. Entretien suivi d'une conférence de presse et de plusieurs annonces. L'épilogue d'un procès de 3 mois en France. Joël Le Squarnec, ancien chirurgien, jugé pour le viol et l'agression sexuelle de près de 300 patients, vient d'être condamné. Il écope de la peine maximale 20 ans. Et puis nous ferons un tour à Roland-Garros pour l'entrée en piste au deuxième tour d'un espoir français. Giovanni Peci-Péricard, il affronte le bosnien Djum Hur. Et on commence donc ce journal avec cette information de dernière minute. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, affirme à l'instant que l'armée israélienne a tué Mohamed Sinwar le 13 mai à Khan Younes, le nouveau chef du Hamas, frère de Yahya Sinwar, tué lui en octobre dernier. Le mouvement n'a pas réagi pour l'instant, tandis que la population, elle, est toujours menacée par la famine, selon les ONG. La Fondation humanitaire pour Gaza a d'ailleurs suspendu aujourd'hui ses opérations de distribution d'aide, annonce de la nouvelle organisation soutenue par Israël et les États-Unis après les scènes de chaos observées hier qui ont fait un mort et une cinquantaine de blessés. L'armée israélienne dément avoir tiré sur la foule, même si le Premier ministre a lui-même reconnu une perte de contrôle momentanée à Blajounaïdi.
Les images de l'anarchie hier à Rafah ont fait le tour du monde. Des tirs, principalement israéliens selon l'ONU, ont tué une personne et blessé 48 autres. Une tragédie de plus qui aurait pu et aurait dû être évitée selon Philippe Lazzarini, le directeur de l'UNRWA.
Ce que nous avons vu hier, ce sont les images choquantes de gens affamés poussant les barrières, cherchant désespérément de la nourriture. C'était chaotique, indigne et dangereux. Je pense que c'est un gâchis des ressources et que cela détourne l'attention des atrocités. Pendant ce temps, la famine progresse. Donc il faut autoriser les humanitaires à faire leur travail, sauver des vies maintenant.
Le directeur de l'UNRWA déplore la mise au ban de l'agence par Israël au profit de la Fondation humanitaire de Gaza, une nouvelle structure qui bénéficie du soutien américain. L'ONU estime qu'elle ne permettra pas de répondre aux besoins des 2 300 000 habitants de Gaza. Il faudrait au moins 500 à 600 camions chaque jour, estime l'ONU. Depuis la fermeture des frontières, il y a près de 3 mois, des camions pleins de nourriture et de produits sanitaires pourrissent aux portes de l'enclave. Et désormais, un demi-million de Palestiniens à Gaza sont au bord de la famine.
Abla Jounaïdi, et ce matin, la défense civile palestinienne a annoncé la mort de 16 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes. Il faut que ces bombardements cessent, a quant à lui lancé le chef de la diplomatie italienne tout à l'heure. De leur côté, la France et l'Indonésie appellent à une feuille de route crédible et des progrès le mois prochain, l'occasion d'une conférence annuelle des Nations Unies pour qu'Israël et la Palestine se reconnaissent mutuellement. Déclaration conjointe à l'occasion d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Jakarta. Notez par ailleurs qu'au Liban, la FINUL, la mission de l'ONU, a affirmé cet après-midi que des casques bleus ont été brièvement bloqués par des hommes en civil dans le sud du pays. Il est 17h04 à Moscou. Les attaques de drones russes sur l'Ukraine sont des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'estiment aujourd'hui des experts des Nations Unies après de récentes attaques dans la région de Kherson qui ont visé des civils. Sur le front, la Russie a revendiqué à la mi-journée la prise d'un nouveau village. Du côté de Soumy, où Moscou prépare une offensive, selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien actuellement en visite en Allemagne, où il doit rencontrer cet après-midi le président. Après s'être entretenu en fin de matinée avec le nouveau chancelier, l'un de ses plus fervents soutiens, Friedrich Merz, qui s'est montré ambigu quant à la livraison de missiles Taurus que l'Allemagne a jusqu'ici toujours refusé de livrer à l'Ukraine. En revanche, il a confirmé que Berlin allait aider Kiev à produire des missiles de longue portée.
Nos ministres de la Défense signeront aujourd'hui un protocole d'accord sur l'acquisition de systèmes d'armes à longue portée de fabrication ukrainienne. Il n'y aura aucune restriction de portée. Cela permettra à l'Ukraine de se défendre pleinement, même contre des cibles militaires situées hors de son territoire. C'est une bonne nouvelle. Cela marque le début d'une nouvelle forme de coopération militaro-industrielle entre nos pays, une coopération au fort potentiel qui aura lieu aussi bien en Ukraine qu'ici en Allemagne. Nous voulons permettre l'utilisation d'armes à longue portée et la production conjointe. Mais nous ne parlerons pas des détails publiquement. Nous intensifierons la coopération et surtout, nous nous efforcerons d'équiper l'armée ukrainienne avec toutes les options pour lui donner réellement la possibilité de défendre le pays avec succès. C'est ce que nous approfondissons dans nos entretiens mutuels.
Et après avoir obtenu le soutien de l'Allemagne, l'Ukraine pourrait bientôt obtenir un signe des États-Unis. Donald Trump pourrait annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie cette semaine, selon CNN et le Wall Street Journal. À noter également qu'un sommet Poutine-Trump-Zelensky ne sera possible qu'une fois des accords concrets conclus avec Kiev, a prévenu le Kremlin. Réponse à la proposition faite ce matin par Volodymyr Zelensky. En France, Joël Skouarnec, condamné à 20 ans de prison, l'ancien chirurgien jugé depuis 3 mois devant la cour criminelle du Morbihan pour 299 viols et agressions sexuelles sur des victimes, pour la plupart mineures, entre 1989 et 2014, a donc été reconnu coupable il y a un peu plus d'une heure. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Vannes, où vous avez suivi pour RFI l'énoncé du verdict. Joël Skouarnec écope donc de la peine maximale 20 ans.
Oui, 20 ans de prison et l'obligation d'en effectuer les 2/3. En revanche, et c'était une demande de la part des victimes, la rétention de sûreté qui vise à prévenir la récidive n'a pas été prononcée. Si c'était le cas, Joël Skouarnec aurait été placé dans un centre médico-judiciaire après avoir purgé sa peine de prison. La présidente a justifié cette décision de la cour. Oui, Joël Skouarnec a agi dans une démarche de prédation, mais il a tenu à répondre aux questions sans se dérober. Il a reconnu ses actes et rien, dit la magistrate, ne permet d'affirmer qu'à l'issue de l'exécution de sa peine, le risque de récidive sera toujours important. Joël Skouarnec est incarcéré depuis 2017. Il a donc déjà effectué 8 ans de prison. Et vous savez que dans le droit français, les peines ne s'additionnent pas, elles se confondent. Donc avec l'obligation des 2/3, mais sans rétention de sûreté, Joël Skouarnec pourrait donc retrouver la liberté dans 6 ans. Colère et déception immense des victimes, dont certaines étaient en pleurs à l'issue du verdict.
Merci Baptiste Coulon. Et à l'instant, l'avocat de Joël Skouarnec, on le rappelle condamné à 20 ans de prison, a indiqué qu'il ne fera pas appel de sa condamnation. On reste en France, mais cette fois-ci à Paris pour la 4e journée de Roland-Garros. Avec un coup de tonnerre il y a quelques minutes, le double finaliste 2022 et 2023, Casper Ruud, est éliminé dès le deuxième tour. Bonjour Babacar Diarra.
Bonjour Alban. Oui, la jambe gauche du double finaliste de Roland a lâché, des douleurs persistantes qui empêchaient Ruud de se déplacer alors qu'il avait pris la première manche face au Portugais Nuno Borges. Mais ensuite, les jeux ont défilé en sa défaveur, 4-6, 1-6, 0-6. Le Norvégien, vainqueur à Madrid il y a quelques semaines, ne soulèvera pas à 26 ans son premier majeur. Et pour le Portugais Borges, en revanche, c'est une première qualification au troisième tour des internationaux de France. Carlos Alcaraz sera au rendez-vous aussi, mais pas de promenade de santé pour le double tenant du titre. Il a cédé un set au Hongrois Fabian Marozan sur le châtrier. L'Espagnol attend son adversaire, peut-être un Français, Giovanni Mpeci Pericard, en piste sur le Langlène face au Bosnien Damir Djumour. Un premier Français vient d'en finir sur le court 14, c'est Quentin Alice qui s'est débarrassé du Serbe Kekmanovic en 4 manches, 4-6-6 3-7-6-7-5, qui va vivre son premier troisième tour à Roland.
Merci beaucoup Babacar Diarra, en direct de Roland-Garros pour RFI. Giovanni Mpeci Pericard qui est donc à égalité avec son adversaire Djumour, 3 jeux partout dans le premier set. Autre match en cours, Karen Khachanov, 1 set partout face à Hofner, 1 jeu partout dans le troisième set. La flambée de l'épidémie de chikungunya s'intensifie sur l'île de la Réunion. Santé publique France a annoncé il y a quelques minutes la mort de 3 nouvelles personnes, ce qui porte à 15 le nombre de décès au total. Mayotte est elle aussi touchée. Résultat, une campagne de vaccination va être organisée pour les adultes considérés comme à risque, âgés de 18 à 64 ans et qui souffrent d'au moins une comorbidité. Il est 16h10 à Paris, 14h10 en temps universel.